Sébastien Lévesque, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien et j'en profite pour vous annoncer que notre très attendue saison 8, ayant pour thème les Rabbit Holes, débutera le 4 octobre prochain sur toutes les plateformes.
Mais si vous êtes un membre Patreon, où que vous soyez dans le monde, elle débutera en avance, soit le 27 septembre. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement à abonnement mensuel qui vous donne accès à du contenu exclusif de Distorsion et à tous nos épisodes en avance, le tout sans publicité. On vous offre deux forfaits exclusifs pour nous supporter.
À 3 $ canadiens par mois, vous avez accès au forfait Distordu, qui vous offre un shout-out dans un épisode, l'accès au serveur Discord VIP, accès aux épisodes réguliers en avance, accès aux épisodes bonus en avance, 10 % de rabais sur la boutique, et ce, à chaque mois.
On a aussi le forfait Oui, monsieur! À 8 $ canadiens par mois, vous obtenez tout ce qui est inclus dans le forfait Distordu. Vous avez en plus accès à du contenu exclusif qui est dédié à ce forfait, comme un after-show après chaque épisode, des interviews, des discussions off the record, etc. Vous avez aussi également accès à un épisode secret par saison, sans parler que vous avez accès aux épisodes secrets des saisons précédentes. Également, vous avez 20 % de rabais sur la boutique à chaque mois.
Rendez-vous au patreon.com/distorsion pour vous abonner et devenir des commanditaires officiels de Distorsion.
On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
Chaque semaine, de nouveaux éléments qui nous interrogent un peu plus sur ce qui ressemble à un huis clos familial.
Il avait constaté la disparition de son épouse, cette disparition qui apparaît comme immédiatement une disparition inquiétante.
Que la vérité se sache, que justice soit faite, et que surtout, on sache où tu es, ma chérie.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Décembre 2020, en pleine pandémie, Delphine Jubilard, une jeune femme de 33 ans, disparaît dans la nuit à Cagnac-les-Mines.
Malgré de grands efforts déployés, elle n'est jamais retrouvée. Et les soupçons se portent vers son mari, Cédric, qui affiche des comportements étranges.
En suivant les pistes numériques, on apprend que la famille Jubilard comptait plusieurs secrets et que Cédric espionnait sa femme d'une manière maladive.
Tout cela n'est qu'une prémisse à cette histoire qui captive la France depuis plus d'un an et où les rebondissements ne cessent de survenir les uns après les autres.
Sébastien Lévesque, comment vas-tu ce soir?
Ça va bien, et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien aussi. Écoute, un petit peu triste aussi parce que c'est l'enregistrement de notre dernier épisode de la saison 7 qui a été toute qu'une saison, sérieux.
Quand même, hein? Oui, je trouve que ça a passé tellement vite. À chaque fois, c'est toujours ça. On dirait que quand on retourne dans le début de saison, là, on a l'impression que puis après ça, ça déboule, puis on a déjà terminé. Il y a toujours quand même un sentiment de satisfaction. Moi, on termine une saison... je vis comme toi un peu le deuil, mais aussi je suis content comme de fermer le chapitre de la saison 7 aussi. Là,
oui, exact, puis d'attaquer de nouvelles histoires éventuellement. Parce qu'en plus, cette saison-ci, elle a été plus longue, échelonnée dans
c'est
le
vrai.
Temps, puisqu'on a sorti aux deux semaines. Et c'est toujours un peu un marathon pour moi et Seb, parce que à chaque saison, il faut évidemment faire de la recherche, faire les enregistrements, organiser ça avec nos vies de fous, mais trouver du financement aussi, travailler avec des agences, des commanditaires et tout ça. Donc, à chaque fois, il y a une fébrilité. Puis quand on arrive à la fin, on dirait qu'il y a un peu un relâchement de pression. Donc là, on attaque notre dernière histoire de la saison 7, l'histoire de la disparition et possiblement le féminicide, le meurtre de Delphine Jubilard, une histoire qui passionne la France. Et pour être franc avec vous, c'est un peu nos distordus sur Discord, en fait, qui nous ont suggéré cette histoire-là. À un moment donné, un bon après-midi, je les ai poqués parce que quand vous êtes membre Patreon, vous avez accès au serveur Discord. Puis je leur ai demandé de me suggérer certains sujets. Et puis celui-là est revenu assez souvent parce que évidemment, il y a plusieurs traces numériques. Vous allez voir, c'est un sujet passionnant. Et puis, ben pourquoi pas? On s'est lancé là-dedans. On s'est rendu compte que c'est une histoire qui a énormément de stock, qui est toujours en cours même. Donc, il faut quand même être prudent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on avance, parce que bon, il y a encore des rebondissements au moment où on se parle. Donc, on va essayer de faire un update le plus à jour possible de cette histoire-là. Mais ceci dit, qu'est-ce qu'on boit ce soir, Seb?
Ce soir, mon cher Émile, on boit la Blanche Orange. C'est une collabo de l'artiste visuel Pony.
Oui,
moi, je l'adore. J'adore ce qu'elle fait. Là, allez voir sur Instagram, là, P-O-N-Y. C'est une collabo avec Veux-tu une bière de Montréal. C'est une bière sans alcool, une bonne bière blanche de type belge qui contient un bon soupçon d'orange et des arômes qui lui confèrent vraiment un goût à la fois classique et actuel. Excellente bière.
Oui, super bière. Cette bière-là nous a été offerte par Pablo Nicoli via notre tournée de bière là, au distorsionpodcast.com. Merci à ceux qui encore nous payent des tournées là, et remplissent notre fridge. C'est une belle attention parce que justement, ces bières-là, en fait, c'est pas des plugs. Quand ça l'est, on vous le dit.
Oui.
Mais autrement, on les achète, on en courage les microbrasseries du Québec et d'ailleurs, en fait. On a déjà reçu bières de la France aussi, d'outre-mer. On a aussi un shout-out qui nous provient là, d'une review 5 étoiles sur Apple Podcast qu'on va donner à R. Steph 74 77 86. On aime ça, les noms avec plein de chiffres comme ça. Et sa review est quand même assez longue, mais tiens, ça vaut la peine de vous la lire. Recherche Google la mieux investie. J'étais sceptique quand je voyais Distorsion dans le top 10 Google des meilleurs podcasts québécois, puis une amie Facebook vous a recommandé. J'ai fait play une fois, puis deux et trois fois, et me voilà à 62 fois, et je suis sans regret. Pour l'anniversaire de mes 30 ans, j'ai choisi Émile et Seb avec une petite bouteille de Veuve Clicquot rosée. Oh, c'est gentil, ça. Je suis sans regret. Bravo pour votre rigueur et vos recherches. Votre travail m'impressionne. Maintenant, je vous entends même narrer certains de mes rêves.
Oh.
Suis-je un androïde dont vous avez infecté le programme? Oui, monsieur. Avec des reviews créatives comme ça, vous pouvez être sûr qu'on va vous donner un shout-out dans l'émission. Mais merci à tous ceux qui nous donnent encore des shout-outs 5 étoiles sur Apple Podcast et sur ailleurs aussi.
Oui, exact.
Sur ailleurs, c'est magnifique. Notamment, tiens, petit segue sur Audible où on peut se procurer notre livre audio.
Oui, exact. Vous savez, on a déjà le tome 1 qui est disponible, mais il y a aussi le tome 2 qui est disponible sur Audible. Et le tome 2, si vous ne le savez pas encore, c'est 6h30 d'Émile et Seb qui lisent le livre. Donc, si vous ennuyez de Distorsion, ben c'est le bon moment d'aller acheter le livre Audible dans le fond de notre deuxième tome et vous allez pouvoir du moins compenser notre absence avant notre retour.
Ben oui, tout à fait, tout à fait. Aussi, on vous invite à nous rejoindre sur Patreon. Vous savez, on a deux forfaits et ceux qui sont abonnés au forfait Oui Monsieur ont accès à nos after shows.
Oui, oui.
Et dans l'after show de cet épisode-ci, on va discuter du cas de Alexia Daval, en fait du meurtre d'Alexia Daval, étant donné qu'il y a plusieurs similarités avec le cas de Delphine Jubilar. Donc, on va comparer un peu les deux histoires. Peut-être que le cas Daval va peut-être éventuellement mener à un autre épisode,
oui,
on verra bien.
Ouais.
Quoi qu'il y ait eu des dénouements qui sont malheureusement tragiques, mais bon, il y a un peu moins d'éléments de mystère, ceci dit, mais on va en discuter un peu plus en long et en large dans l'after show. Et sinon, mon cher Seb, est-ce qu'on est prêt à attaquer ce dernier épisode de notre saison 7?
Oui, monsieur!
C'est parti!
Aujourd'hui,
Seb, on traite d'une disparition mystérieuse qui a des allures de meurtre, voire de féminicide même. Là. C'est une histoire survenue en 2020, en pleine pandémie, ce qui rend les choses un peu particulières. Parce que c'est une histoire récente qui a eu énormément de rebondissements au cours des derniers mois, puis énormément de couverture médiatique aussi. Là. Ça a été un peu difficile même faire le tri dans toutes les infos.
Il
y a des choses qui se répétaient, des choses qui se contredisaient aussi. On invite d'ailleurs les distordus qui ont suivi l'histoire l'histoire, possiblement des Français, de nous peut-être nous préciser certaines infos, peut-être que de notre côté se sont contredites. Je sais, notamment au niveau de la marque de téléphone cellulaire de Delphine, on aura la chance d'en parler, mais pour Distorsion, c'est des détails qui nous intéressent en épreuve numérique. Mais un peu comme l'histoire du petit Grégory, là, ou encore le cas de Alexia Daval, dont on a parlé dans l'intro, c'est des histoires qui ont passionné la France. C'est même devenu un genre de feuilleton, là. Des fois, c'est exagéré là, à la télé, là. Il y a une quantité impressionnante d'articles qui sont rédigés sur le sujet. Et puis, connaissant la presse européenne, ben, c'est pas non plus une histoire qui a toujours été traitée avec respect, si on veut. Faut pas oublier qu'il y a quand même la présomption d'innocence.
Oui,
il y a le mari ou l'ex-mari là, de Delphine Jubilard qui est vraiment mis... comment dire, en observation, là, les regards sont tous posés sur lui et on a tendance à l'accuser. Il y a quand même une forme de présomption d'innocence. Là, son procès n'a pas encore eu lieu au moment où on enregistre l'épisode. Mais ceci dit, on aura la chance d'en reparler. Il y a aussi des tonnes de preuves numériques là, qui sont intéressantes à analyser, même qui peuvent trancher potentiellement sur dans un procès comme celui-là. Donc, sans plus tarder, Seb, là, je me lance tout de suite dans la chronologie des événements. Nous sommes le 15 décembre 2020, le jour de ma fête, imagine-toi.
Oui.
Delphine Jubilard, âgée de 33 ans, vit avec son mari Cédric, qui lui, âgé de 34 ans. Le couple vit dans une maison de la commune de Cagnac-les-Mines, située dans le sud-ouest de la France. Cagnac-les-Mines, c'est un petit village de 2600 habitants environ, dans la région du Tarn, où la plupart des gens se connaissent. Delphine est infirmière et Cédric est peintre plaquiste en bâtiment. Il travaille principalement sur des chantiers et aussi dans le monde des rénovations. Le couple a deux enfants, Louis et Elia, nés en 2014 et 2019 respectivement, âgés de 6 ans en fait et de 18 mois au moment des faits. La petite famille habite une maison qui est constamment en construction à Cagnac-les-Mines. Certains vont la qualifier de dépotoir, même que j'ai vu sur Internet. Là, c'est peut-être un peu exagéré, là. Mais le terrain de la maison est un peu en bordel. Donc, il est pas aménagé. C'est une maison qu'on voit qu'il y a vraiment un potentiel, hein. Comment dire, la construction semble bien faite, là. Ça semble moderne et tout ça. Mais autour, il y a plein de matériaux de construction posés un peu partout. Des vélos qui sont, je sais pas, les vélos des enfants qui sont empilés, donc c'est vraiment, ça ressemble un peu à un peu une cour à scrap, comme on pourrait dire, au Québec. Selon moi, Cédric devait vouloir rénover la maison par lui-même, en fait, là, étant donné qu'il y a des habiletés en construction, mais le projet semble stagner depuis plusieurs mois, là, voire quelques années. C'est pour ça que je mets un bémol un peu sur le mot « dépotoir », car je ne crois pas que la famille Jubilard était mal propre là, en général, là, mais les aménagements là, semblaient s'étirer en longueur là, dans le cas de cette maison-ci. Ce soir-là, du 15 décembre, il fait un peu frais à l'extérieur et nous sommes en pleine pandémie. Donc, il y a un couvre-feu dans cette région-là de la France. On se rappelle cette époque qui n'est pas si loin derrière nous, hein, les couvre-feux. C'était creepy, puis c'était un peu même mal vu là, de sortir dehors en dehors du couvre-feu. Là, tu sentais que quelqu'un qui était dehors, soit il était louche ou il y avait une permission spéciale, en fait.
Oui, exact.
Mais tout semble se dérouler comme prévu dans la maisonnée à ce moment-là, le 15 décembre. Les heures passent et vers 4 heures du matin, donc le 16, Cédric est réveillé par un de ses enfants qui pleure. Selon ses dires, sa femme est partie vêtue d'une veste polaire blanche, une doudoune, avec son téléphone portable. Elle serait sortie promener les deux chiens du couple pendant la nuit et ceux-ci seraient revenus seuls à la maison vers 4 heures du matin sans leur maîtresse. Les chiens auraient alors réveillé un des enfants qui, par la suite, a réveillé leur père Cédric. Lorsque ce dernier regarde dehors rapidement, il trouve les chiens seuls qui aboient. Cédric s'inquiète et envoie tout de suite un texto à une des amies de Delphine pour vérifier si elle est en sa compagnie. Quand même particulier, là, à 4 heures du matin, il lui dit « Dis à Delphine de rentrer », ce à quoi l'ami répond « Non, Delphine n'est pas avec moi ». C'est alors que vers 4h30 du matin, vraiment le 16 décembre, Cédric contacte les gendarmes pour signaler que quelque chose ne tourne pas rond avec sa femme Delphine. Lorsque les gendarmes arrivent, ils remarquent tout de suite la maison en gros bordel, ce qui rendra difficile la collecte d'indices là, et l'observation là, sur le champ là, des lieux. Il remarque que Delphine est bien sortie en pleine nuit avec son téléphone, mais sans son chargeur, sans son sac à main et sans ses lunettes dont elle a besoin pour bien voir. La scène semble bien mystérieuse. Il décide alors d'aller interroger le voisinage et constate qu'une voisine aurait vu l'infirmière, apparemment, là, dans les rues entre 2 et 4 heures du matin. Le tout est très étrange puisque nous sommes en pleine pandémie, tout est fermé au village, il n'est même pas permis de circuler là, à cette heure-là, en fait, en raison du couvre-feu. Il s'agit donc d'une nuit bien particulière pour disparaître. Évidemment que lorsque les gendarmes arrivent dans la demeure de Cagnac-les-Mines, toute la maisonnée est réveillée. Ça bouge beaucoup avec les deux enfants qui sont présents, mais aussi les deux chiens. Bizarrement, Cédric est déjà en train de laver une couette de duvet dans la machine à lessive.
Ouais.
Drôle de timing pour faire une brassée de draps. Cela jette tout de suite des soupçons des gendarmes à l'endroit de Cédric. Ils comprennent que quelque chose ne tourne pas rond chez les jubilards. Mais Seb, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous parler un peu là, du couple de Delphine et Cédric?
Absolument, mon cher Émile. Originaire du Tarn, Delphine Aussagel, de son nom de jeune fille, est née en 1987. Son adolescence est marquée par le décès de son père alors qu'elle est âgée de seulement 12 ans. Elle grandit à Gaillac, près d'Albi, avec deux de ses frères et sa sœur. En 2007, après l'obtention de son baccalauréat en sciences médico-sociales, elle intègre l'école d'infirmières IFSI d'Albi, où elle sort diplômée en 2010. En 2011, Delphine obtient un poste à la clinique Claude Bernard d'Albi, au service gastro-entérologie. Delphine est très jolie, pétillante, débordante d'énergie. C'est une femme qui est positive et qui met vraiment de la joie autour d'elle. En juillet 2013, elle épouse Cédric Jubilard, rencontré quelques années plus tôt, en 2006, lors d'une fête d'anniversaire chez une amie commune. Ils ont à l'époque que 18 ans, c'est vraiment des jeunes tourtereaux.
Oui.
Contrairement à Delphine, Cédric connaît une enfance difficile et grandit successivement dans des familles d'accueil et des foyers pour enfants problématiques. Les deux ont des expériences très différentes, mais sont tout de même attirés l'un vers l'autre. Et ils décident de former un couple. Ça fait très longtemps que le couple se connaît. Ils sont un peu comme des amoureux du lycée qui décident finalement de poursuivre leur vie ensemble. Ils s'installent à Cagnac-les-Mines, un petit village calme en campagne, et fondent une famille avec la naissance de leur premier enfant, Louis, qui est né en 2014. Entre-temps, Delphine vivra le deuil de sa mère, atteinte d'une maladie neurodégénérative. Celle-ci va mourir à l'âge de 60 ans, en octobre 2016. Les premières années du couple à Cagnac-les-Mines se portent plutôt bien, comme le démontre la naissance de Elia, leur plus jeune enfant, né en 2019. Toutefois, la relation entre les deux copains du lycée se désagrège avec le temps. La pandémie de COVID-19 éclate et bouleverse l'emploi de Cédric qui a beaucoup moins de travail en chantier en raison de l'isolement et des mesures sanitaires. Dans le cas de Delphine, c'est totalement le contraire, sachant que le système de santé a un urgent besoin d'infirmières. Cela a pour effet de faire en sorte que Cédric s'isole de plus en plus et reste à la maison toute la journée en regardant passer les heures. Il y a beaucoup de monde hein, qui ont vécu ce type de situation-là dans le couple, une forme d'inégalité. Quand la COVID est arrivée, là, c'est des personnes étaient prises à la maison à rien faire. Tu te sens comme un peu poche. Puis là, tu as l'autre personne, il y a de tout le poids du monde sur ses épaules.
Oui, il y a un genre de débalancement. Puis ouais. En plus, je pense que Delphine était infirmière de nuit à ce moment-là. Okay. Donc, il devait avoir des horaires complètement opposés l'un et l'autre. Là. Donc, ce qui fait en sorte que justement, Cédric devait rester à la maison, gérer les enfants, probablement à l'école, garderie, tout ça. Pendant que Delphine, elle, j'imagine, se reposait. Et partait travailler par la suite.
Oui, exact. Mais on s'entend que c'est pas bon pour une vie de couple.
Ben non.
Cela a pour effet de faire en sorte que Cédric s'isole de plus en plus et reste à la maison toute la journée en regardant passer les heures. Il se referme sur lui-même et commence à consommer au quotidien. Il fume de la marijuana tous les jours et cela devient son activité principale en plus de boire de l'alcool. Il commence aussi à fréquenter des jeunes dans les parcs où il va fumer. C'est un peu louche. Ben pas louche, mais c'est étrange. Il est un peu sur la dérive et sa vie devient de plus en plus léthargique. Il ne faut pas oublier que le couple a tout de même deux enfants, deux chiens, et que Delphine est la seule à subvenir aux besoins financiers de la famille. Delphine commence à en avoir marre de ce train de vie. en plus du fait qu'après plusieurs années, l'état de la maison ne s'améliore pas et les constructions ne se terminent jamais. Delphine rêve d'un avenir plus stimulant pour elle et sa famille, ainsi qu'un logis propice à élever ses enfants. Puis on la comprend, hein? Ça c'est souvent le genre de syndrome du gars ou de la fille justement qui a des compétences là-dedans puis qui veut tout prendre sur ses épaules, mais ça fait que mais quand tu arrives le soir après déjà ta journée de travail, tu en as déjà un peu plein de cul, puis ça te tente jamais. Je trouve tout le temps que c'est tout le temps une mauvaise idée. On dirait que souvent les projets de rénovation, les gens qui ont moins de
parfois tout faire soi-même, ça fait en sorte que c'est jamais terminé.
Exactement.
Il y en a qui ont cette il y en a qui sont jamais capables de rien terminer en fait dans la vie.
Exactement, exactement. Puis ça c'est vrai. Puis moi il y a des trucs je suis pas bon là-dedans, des meubles ou des trucs comme ça. J'ai besoin d'un coup de pouce, tu sais. Mais c'est ça, je trouve que des rénos c'est tellement engageant. Puis justement, tu sais, vivre dans le bordel, je trouve que des fois les gens font ça pour économiser, mais des fois t'es mieux de déléguer pour justement après ça pouvoir fermer ce dossier-là, puis passer à autre chose. Hein.
Mais possiblement que Delphine devait se dire aussi, ben vu qu'il y a moins de travail, ben il va travailler sur la maison et tout ça.
Exactement.
Mais écoute, je sais pas, ça prend quand même des moyens pour faire des rénos chez vous, même quand tu fais ça toi-même.
Oui, il y a ça aussi, hein. Puis le contexte de COVID, parce que j'ai réfléchi à ce que tu disais, puis tu sais, il y a l'état mental dans lequel il était aussi, je pense qu'il devait pas être trop motivé, là, si on se remet dans cet état-là, en 2020, tu sais, tu perds ta job, on est confiné, j'ai l'impression que ça a dû jouer aussi sur sa motivation à, du moins, à avancer les travaux, mais je comprends Delphine, elle travaille toute la nuit. Déjà que c'est dur de travailler la nuit comme infirmière, en temps de COVID, là, ça devait être, c'est des guerriers, guerrières, là, c'est,
oh oui,
ces gens-là.
Oui, tout à fait. Ils sont sur la ligne de front, puis ça. De son côté aussi, ça doit être décourageant de voir le mari fumer du cannabis à la journée longue, même de traîner dans des parcs avec des jeunes ados. Donc, c'est clair que ça ne devait pas être motivant là, pour elle. Je la comprends d'en avoir marre.
Oui, exact. Au cours de l'été 2020, la jeune femme décide de mettre un terme à son mariage. Le couple entame une procédure de divorce tout en vivant sous le même toit. Cédric réagit mal à cette demande de séparation. Il affirme à Delphine qu'il l'aime toujours et lui promet de remettre sa vie sur pied et de s'occuper de la maison prochainement. Parallèlement, ils font face à des problèmes financiers liés à la situation professionnelle de Cédric et du fait que Delphine doit faire vivre toute la famille avec son seul salaire d'infirmière. Ceci dit, les procédures sont entamées en pleine pandémie de COVID-19. Mais en décembre 2020, au moment des faits, le couple vit toujours physiquement ensemble dans la maison de Cagnac-les-Mines.
On revient à notre enquête tranquillement, mon cher Seb.
Oui.
On est toujours, en fait, ce 16 décembre 2020. Là. On est au petit matin, puis on se rappelle, les gendarmes viennent de débarquer chez Cédric. On se rappelle que celui-ci a été très rapide pour appeler les policiers. Là. Il a mis moins d'une demi-heure entre son réveil causé par les pleurs d'un de ses enfants, selon ses dires, et le moment où il a appelé les gendarmes, pour signaler la disparition de sa femme. Donc, on se rappelle aussi qu'il a contacté des amis de Delphine au préalable. Ouais. En fait, il a envoyé aussi un message de groupe sur WhatsApp.
Okay.
Donc, les textos le prouvent là, avec l'heure exacte de l'envoi sur WhatsApp. Lorsqu'on lui demande si Delphine est du genre à quitter la maison sans avertissement, comme ça en pleine nuit, parce que en fait, on n'a pas le choix de poser la question, il répond que oui, ça lui est déjà arrivé. Apparemment que Delphine avait déjà quitté pour la nuit sans avertissement pour passer le reste de la nuit avec des amis. Étrangement, Cédric n'avait pas appelé les gendarmes à ce moment-là, alors qu'il a mis moins d'une demi-heure ici. Là.
Ouais,
bizarre
ouais,
quand même. À l'époque, il avait laissé passer le temps et puis Delphine était revenue.
Ouais.
Mais là, même sachant qu'elle l'a déjà fait, il appelle les policiers seulement 15 minutes. Bon.
Ça peut être les chiens, tu sais, étant donné que les chiens étaient comme seuls devant chez elle, que c'est peut-être ça qui allume disons, quelque chose de plus louche que juste sortir.
Oui, c'est vrai que les chiens, ça se peut aussi. Les chiens seraient sans doute rentrés à l'intérieur. C'est une bonne question, oui, j'avoue. C'est peut-être ça aussi qui lui a semé le doute, là. Un voisin a aussi remarqué que la voiture de Delphine, une petite Peugeot 307 blanche, était garée dans le parking dans le sens inverse de la veille. Donc, par exemple, je crois que Delphine avait tendance à se garer à reculons, comme ça elle pouvait repartir plus facilement le lendemain matin ou lorsqu'elle partait pour son chiffre, le soir probablement, tandis que là, en fait, la voiture était dans l'autre sens, donc ce qui était un peu inhabituel. Une personne affirme avoir aperçu Delphine promener les chiens dans la rue dans la nuit du 15 au 16 décembre entre 2h et 4h du matin. Encore là, c'est très vague. Il y a un autre voisin qui affirme que Delphine ne promène jamais les chiens, c'est toujours Cédric qui s'en occupe. Pour lui, il est très improbable que Delphine soit sortie dehors avec les chiens. Ceci dit, il n'y a aucune trace de Delphine dans la maison. Les policiers affirment que les lieux étaient mal entretenus et que la maison était en bordel. Mais malgré tout ça, il n'y a aucune trace de violence, aucune trace de sang ou d'altercation qui est visible dans la maison dans son état actuel. Les policiers prennent la disparition très au sérieux et mobilisent une cinquantaine de personnes dans les heures qui suivent avec des chiens pisteurs, des plongeurs, un hélicoptère ainsi qu'un drone pour ratisser les environs du haut des airs. Malgré cela, aucune trace de Delphine pendant les jours qui suivent dans les environs de Cagnac-les-Mines. Cédric demeure seul à la maison avec ses deux enfants qui ne comprennent pas trop ce qui est arrivé à leur mère. Et ça, c'est très triste, hein, ils n'ont aucune réponse.
Ben oui, exact.
Je ne sais pas ce qu'ils leur disaient pendant ce temps-là, mais pour eux, sont juste plein de questions. Bien évidemment, les proches et la famille de Delphine ne croient pas du tout que la jeune femme ait quitté la maison volontairement, même si ça lui est déjà arrivé de le faire pendant un court laps de temps. Non seulement, selon eux, elle aimait trop ses enfants pour les quitter subitement comme ça, mais en plus, elle adorait son travail et voyait son divorce comme l'occasion de démarrer un nouveau chapitre dans sa vie. Cette journée du 16 décembre, Delphine avait congé et devait aller prendre le déjeuner avec des copines qu'elle avait bien hâte de voir. Donc, elle anticipait très positivement cette journée-là. Donc, ses copines, lorsqu'on leur demande c'est possible, ils se disent « Ben non, on devait se voir aujourd'hui, puis ça n'arrive pas souvent. » Donc, Delphine était très, très excitée de cette activité-là. Une telle disparition volontaire ne faisait donc pas partie des scénarios possibles selon ses proches. De plus, nous sommes en pleine nuit, en pleine pandémie et en isolement. C'est pas évident de s'enfuir comme ça. Les hôtels, les commerces sont un peu sous contrôle. Ouais. C'est pas tous les hôtels non plus qui sont opérationnels. Exactement, il y a bien des Airbnb qui ont fermé, des choses comme ça. Donc, c'était pas évident de s'enfuir dans le cas de la pandémie. On a même vu des cas où... certaines personnes retournaient avec leurs agresseurs dans la pandémie en raison de justement de la pénurie de logement aussi qui a éclaté en même temps, les pertes d'emploi, tout ça. Donc, on sait que ça a été une période très difficile pour la violence conjugale, entre autres. Et moi aussi, j'ai de la misère à croire qu'elle aurait pu s'enfuir dans un contexte comme ça.
Ça fait pas de sens.
Cédric se montre tout de même collaboratif aux recherches et avec les policiers en général. Ceci dit, il montre une certaine froideur lors des interviews ou encore d'interventions médiatiques, ainsi qu'une certaine arrogance. On voit qu'il était aigri de la demande de divorce et qu'il avait une certaine distance avec Delphine. Il ne se montre pas atterré, mais il collabore en général. Les jours passent et le 23 décembre, une grande battue est organisée à Cagnac-les-Mines et plus de 1000 volontaires participent, dont Cédric Jubilard. L'affaire fait les manchettes en France et tout le pays est rivé aux nouvelles pour suivre tous les rebondissements de l'affaire et Dieu sait qu'il va en avoir. Mais malgré tous les moyens déployés, aucun corps n'est retrouvé, ni indice vraiment pertinent. On va trouver des vêtements lors de cette battue-là, un couteau et un téléphone apparemment, mais qui ne semblent pas être liés à l'affaire. Ceci dit, ce jour-là, l'affaire est traitée comme une affaire criminelle d'enlèvement et de séquestration. On remarque sur le site de la battue un clivage entre Cédric et la famille de Delphine. Il semble y avoir deux camps, comme si la famille de la jeune femme disparue ne faisait pas tout à fait confiance à Cédric. Les enquêteurs se tournent rapidement vers les technologies pour tenter d'éclaircir la ligne du temps et les regards se tournent inévitablement vers Cédric. Alors que le téléphone de Delphine est manquant, celui de Cédric, lui, est saisi assez rapidement. Selon sa version des faits, le soir du 15 décembre, il indique qu'il est allé se coucher aux alentours de 23 heures après avoir passé plusieurs heures à jouer au jeu vidéo le Game of Thrones. Le téléphone se serait éteint par manque de batterie et aurait donc chargé toute la nuit jusqu'à son réveil vers 4 heures. Ça, c'est toujours selon ses dires à lui, là, c'est oui. Son scénario. Cette information-là sera d'ailleurs contredite plus tard avec l'expertise judiciaire. Le téléphone de Cédric n'a jamais manqué de batterie. Il aurait été fermé volontairement. Un différent scénario, ça.
Ouais.
À son réveil, son téléphone indiquait une charge de 33 %. Il aurait par la suite effectué des recherches avant d'appeler la police. Et information intéressante, c'est rare que j'ai vu ça dans un cas d'histoire à distorsion, mais le podomètre là, qui calcule les pas qu'on effectue dans une journée, le podomètre du téléphone de Cédric montre qu'il n'a fait que 40 pas avant d'appeler la police à 4h15 du matin. Ce qui ne démontre qu'une fouille sommaire, selon les enquêteurs. Par exemple, la visite de la maison et du jardin avec les policiers aura constitué plus de 380 pas sur le même téléphone. Donc, ils ont fait des comparaisons. Cela indique qu'il n'a pas effectué une grande recherche avant d'appeler de l'aide.
Ah,
là.
C'est louche.
T'sais, c'est ça. T'sais, quand tu te lèves, par sursaut, tu as été réveillé. Bon, tu vas à la chambre de ta fille parce qu'elle a pleuré. Après, je ne sais pas comment la maison était faite, mais potentiellement, tu montes un étage, tu en descends une, tu fais le tour de la maison. Juste ça, c'est plus de 40 pas. Là.
Exactement.
Et après, tu vas voir dans le garage. On voit qu'il y avait un garage. Il y a un jardin, il y a une voiture. Tu sors, tu vas peut-être voir dans la rue un peu. Les chiens aboyaient. Il y a sûrement sorti pour les rentrer. Donc, juste en faisant des petits tests, les enquêteurs ont fait 380 pas. Donc, selon lui, son scénario, est peu probable selon les petits tests maison là, effectués. Là.
Il aurait fallu qu'il... Ça serait probable s'il avait laissé son téléphone sur sa table de nuit ou puis là, il aurait parti puis il serait revenu à sa table de nuit puis il appellerait. Tu sais, dans le sens qu'on n'a pas toujours... Tu sais, les podomètres sont calculés en fonction qu'on porte le téléphone sur nous.
Oui.
Donc, mais j'imagine que ça a été débattu en cours. J'imagine que ça a dû être convenu qu'il l'avait sur lui, mais ça peut être ça aussi. Hein, tu sais, il pouvait avoir fait le tour puis tout ça. Puis c'est pas pour le défendre, là, mais tu sais, d'avoir fait le tour puis avoir juste laissé le téléphone sur la table puis pas avoir fait pas, dans le fond, selon le podomètre du téléphone.
Ah, tout à fait. Ah non, c'est clair.
Mais il y a clairement une discordance.
Oui, mais t'as raison. C'est vrai que... mais tu vas voir, il y a d'autres éléments troublants en lien avec son téléphone qui laissent sous-entendre qu'il y en a peut-être fait plus, en fait.
Oui.
Par la suite, selon ses registres d'appel, il tente de joindre Delphine 180 fois là, entre son réveil à 4 heures du matin et 10 heures le matin. Là. Donc, c'est énorme. Mon Dieu, ouais. Mais par contre, le 17 décembre, donc le lendemain de la disparition, il a tenté que 2 fois. Et par la suite, les autres jours, depuis sa disparition, plus aucun appel ne sera passé envers le téléphone de Delphine. Il a donc cessé de contacter le téléphone de Delphine seulement 2 jours après sa disparition. Là.
Hey, c'est bizarre.
Donc, d'une manière frénétique. Là. Ça laisse presque sous-entendre quelqu'un qui cache des preuves.
Ouais, ben c'est ça.
Puis j'ai même une théorie, en tout cas, je te reviendrai. La fin, on en parlera, mais qui pourrait expliquer quelque chose aussi.
Okay. Ah,
je te tease un peu, bref, donc ça se tient pas tout à fait debout, on dirait, cette ligne du temps de cette fameuse nuit là, quand on regarde les preuves numériques. Là. Surtout que quand, lorsqu'ils ont fait une expertise judiciaire sur le téléphone, quand le téléphone se serait rallumé le lendemain matin, il était à 33 %. Ouais. Donc, il ne s'était pas éteint par manque de batterie, comme Cédric l'a dit. Exactement. Sinon, il serait plein le lendemain matin, en fait.
Oui, ah, oui, t'as raison. Il aurait été chargé.
Tu sais, en 4 heures, 5 heures, selon ses dires, il n'est pas à 33 %. Non. Donc, ça a plus l'air d'un téléphone qui a été fermé volontairement et qui s'est déchargé peu à peu là, pendant la nuit. Plus que qu'il se soit chargé, en fait.
Oui, exact.
Le téléphone de Delphine, maintenant, là, on sait, lui, il est disparu avec elle. Mais il est possible d'obtenir des informations grâce à son service téléphonique. Ils vont faire des requêtes et contrairement à d'autres histoires, ils vont avoir, quelque part, là, la justice derrière eux pour obtenir des informations. Là. On apprend que le téléphone a cessé d'émettre le 16 décembre au matin dans un rayon de 2 km autour de son domicile. Le 16 décembre, c'est le lendemain de la disparition. Oui. Là. Son téléphone tourne pour la dernière fois à 22h55 la veille, le 15 décembre, puis il tombe sur la messagerie vocale à 7h48 du matin. Il déclenche alors un relais proche de chez elle, mais qui n'est pas le relais auquel il se limite habituellement lorsque Delphine est chez elle. C'est un autre relais. Et là, la lampe de poche du téléphone de Delphine n'a jamais été allumée cette nuit-là, alors que la rue n'était pas éclairée, apparemment qu'elle promenait les chiens, là, qu'il faisait nuit, qu'il était une nuit très noire, et qu'elle est partie sans son véhicule. Donc, c'est quand même louche qu'elle ne se soit pas servie de son téléphone pour s'éclairer, sachant qu'elle était dans l'obscurité totale. Mais ça, moi, j'ignorais qu'on pouvait traquer ça, l'information liée à la lampe de poche.
Oui, la lampe de poche, oui. Puis on essaie de chercher l'info, puis c'est un peu difficile à trouver. Mais en fait, je le sais que ce type d'information-là se log sur des fichiers système. C'est à savoir justement comment les policiers l'ont eu. Est-ce que tout ça va dans le cloud? Ça se pourrait. Puis moi, mon autre théorie, c'est que les compagnies comme ça, ils gardent ces statistiques-là pour calculer la durée de vie, par exemple, de la lampe de poche ou les statistiques d'utilisation d'une lampe de poche pour calculer la durabilité, etc. Fait que ça se pourrait que cette info-là soit dans notre package de profil.
Ah oui, lorsque tu cliques quelque chose dans ton contrat, que tu dis que tu t'acceptes d'envoyer des données pour l'amélioration des applications ou quelque chose.
Exact.
Ça se peut. On sait que c'était un téléphone Android. C'était un Huawei, en fait. On va en parler un petit peu plus en détail. C'était pas un iPhone. Je sais pas côté-là, c'est différent.
Ouais, les iPhones, ouais, c'est une bonne question. Je suis sûr qu'ils loguent, mais à savoir si ça se copie dans le iCloud, je le sais pas. Je le sais pas du tout. J'ai essayé de faire des recherches à trouver. C'est une information qui est difficile à trouver précisément.
Oui, c'est clair. On a trouvé plein de choses. L'habituel, les données qui se stockent dans le cloud.
Oui, exactement.
Mais je ne sais pas, avec un mandat plus détaillé. S'il y a des distordus qui le savent.
Oui, dites-nous-le.
Dites-nous-le, absolument. Les jours passent ainsi que le temps des fêtes où Cédric fête Noël avec ses enfants comme si de rien n'était. Très triste pour eux, d'ailleurs.
Ah, c'est enfin.
D'autres fouilles vont être effectuées dans la maison avec des appareils permettant de scanner les murs et les fondations. Malgré tous ses efforts, aucune trouvaille utile n'a été récupérée. Ceci dit, Cédric sent la pression monter en lui. Il sent que les enquêteurs n'en ont pas fini avec lui. Un tracker a été posé sous sa voiture pour suivre ses déplacements et son téléphone est mis sous écoute. Il va commencer à surveiller ses allées et venues et à prendre en compte que chacun de ses gestes est traqué.
D'autres comportements numériques vont semer des doutes dans l'affaire, notamment... Le 13 janvier 2021, un message vide est posté depuis son compte Facebook. Elle est la seule à y avoir accès. Trois hypothèses sont avancées. Celle d'un bug dans l'application, soit d'un piratage ou encore d'un dysfonctionnement résultant des investigations des enquêteurs sur le matériel informatique de Delphine. L'hypothèse du piratage aurait également été privilégiée par la police. Le 9 février, le téléphone semble avoir été réactivé à nouveau. Plus précisément l'application Messenger, sans que là encore une seule explication ne puisse être avancée. Il a été précisé plus tard par le procureur que ces réactivations seraient une conséquence technique des recherches informatiques des enquêteurs, ce qui leur a été confirmé par Samsung. Il s'agit donc d'une fausse alerte. Ce ne serait pas Delphine qui aurait utilisé ce téléphone.
En même temps, c'est drôle parce que l'info dit que justement, c'était Samsung qui ont confirmé tout ça, mais c'était pas un Samsung qu'elle avait comme téléphone. Donc, je sais pas s'ils sont allés voir Samsung juste pour consulter ou...
Ah, OK. Moi, c'est bizarre parce que même sur Wikipédia, c'est Samsung. T'sais, on dirait qu'il, comme tu dis, il y a de l'info qui se contredit sur les téléphones. Ouais, c'est étrange. Oui, parce que Huawei, Samsung, c'est vraiment deux entités à part. Tu sais,
ça
ça peut pas être un co-branding ou quoi que ce soit. Là. Sauf si, nuance, Samsung font des puces de téléphone. Dans le sens que ça se peut que Huawei a des puces Samsung. Tu sais, Samsung, il y a plein dans vos iPhones, vous avez plein de matériel de Samsung, entre autres.
Oui, OK.
Fait que c'est son concurrent et ami, tout dépendant. Bref, ça peut être ça. Lorsque les enquêteurs questionnent Cédric plus amplement et lui demandent si, selon lui, Delphine avait eu une relation extra-conjugale au cours des mois passés, il leur répond tout bonnement qu'il avait remarqué que Delphine avait changé ses mots de passe. Donc, il supposait qu'elle lui cachait des choses. Cela démontre aussi que Cédric tentait régulièrement de fouiller dans le téléphone de Delphine, ce qui n'est pas très sain évidemment dans une relation amoureuse. Il se trouve qu'en effet, en pleine instance de divorce avec Cédric, Delphine a eu une relation amoureuse avec un autre homme qu'elle a rencontré via une application de relations extra-conjugales. Le duo commence à discuter en ligne d'une manière plus intensive et avec le temps, un véritable amour se développe entre les deux. Ils parviennent à se voir de 2 à 3 fois par semaine. L'homme en question est marié lui aussi et habite dans une maison à Montauban, une petite ville de la région du Tarn, pas trop loin de Cagnac-les-Mines. Il est très doux et aimable, ce qui contraste avec le tempérament de Cédric. Ce dernier va se douter qu'un autre homme est présent dans la vie de Delphine et il va tenter à tout prix de le retrouver. Il va tenter de géolocaliser Delphine lorsqu'il suspecte qu'elle est en sa compagnie. Lorsque Delphine s'en rend compte, elle est folle de rage et indique à Cédric de lui foutre la paix et qu'elle engage un avocat pour gérer le divorce. Cédric devient de plus en plus aigri et va même exprimer à des amis à 4 ou 5 reprises qu'il en a marre de Delphine et qu'il pourrait même lui faire du mal. Alors qu'il mène sa propre enquête en décembre 2020, Cédric va subtiliser la carte bleue de Delphine à son insu et va se rendre dans un guichet automatique pour regarder les transactions effectuées.
On oublie cette technique-là, hein, mais c'est vrai qu'on peut,
on peut
aller au good old guichet automatique puis voir l'historique des transactions. Ça doit prendre un mot de passe,
par contre. Oui, il faut quand même ton NIP.
Oui, mais il devait le connaître.
Oui, ben dans un couple, souvent, tu connais, tu sais, ça arrive que tu connais le mot de passe. Souvent, il n'y a pas d'informations tant que ça confidentielles.
Souvent, les gens vont changer leur mot de passe Facebook avant de changer leur mot de passe de carte de crédit.
Effectivement. Delphine s'est récemment acheté de nouveaux sous-vêtements. Elle a aussi payé une nuitée à l'hôtel et d'autres nuits chez des particuliers.
Selon ce qu'il peut voir dans l'historique de transaction.
Exact. Cédric va devenir fou de rage. Delphine semble avoir un plan en tête. Elle a terminé le compte conjoint du couple, souhaite s'acheter une nouvelle voiture et déménager à Montauban avec son nouvel amoureux, y amener les enfants, car elle juge que Cédric n'est pas en mesure de s'en occuper avec la maison en bordel. Sans parler de sa consommation et tout ça. L'amant en question a confié dans une interview à un journal que l'histoire entre lui et Delphine avait commencé sur Internet 6 mois avant sa disparition. Il a également déclaré que Delphine Jubilard et lui avaient prévu d'emménager ensemble et que son propre divorce à lui était sur la bonne voie. Sa femme avait accepté et avait même demandé à Delphine de se faire discrète d'ici à ce que le divorce soit finalement conclu. On apprend aussi que le soir de sa disparition le 15 décembre, peu avant 23 heures, elle et lui s'étaient échangé des textos et elle lui avait envoyé une photo d'elle en chemise de nuit, douchée et prête à aller se coucher. Ensuite, la tenue sera trouvée lors de la première recherche dans le bac à linge sale. Son dernier message texte sera « Je t'aime mon cœur » et par la suite, plus rien. Bref, Delphine avait tout prévu pour débuter une nouvelle vie avec ses enfants et son nouvel amour.
« Les jours passent et deviennent des semaines, et les semaines deviennent des mois sans aucune nouvelle de Delphine. Le tout commence à être très suspect et l'hypothèse d'une disparition volontaire tient de moins en moins la route, surtout que l'amant de Delphine, lui non plus, n'en a aucune nouvelle.
Effectivement.
La famille et les proches sont très attristés et ces pauvres enfants n'ont toujours pas de réponse à leurs questions. Un autre homme dont le comportement envers Delphine Jubilard est qualifié d'insistant par une témoin est entendu par les enquêteurs. Il avait déjà été condamné le 2 novembre 2020 dans une affaire liée accidentellement à la voiture du couple Jubilard. Je crois que c'était un chauffeur de taxi.
Okay.
Il nie toute l'implication et les gendarmes ne semblent pas disposer d'éléments le reliant à l'affaire. Les voisins signalent la présence d'un camping-car, là, un genre de véhicule récréatif, garé à proximité du domicile de Delphine dans les jours précédant sa disparition. Retrouvé et entendu par les enquêteurs, le propriétaire du véhicule est lui aussi mis hors de cause. En avril 2021, Cédric commence à obtenir une certaine forme de notoriété sur les réseaux sociaux. La presse française traite du sujet à chaque jour et des photos de lui circulent constamment. Il ne déteste pas cette forme de popularité. Les gens étant ce qu'ils sont, il a aussi des admiratrices qui semblent attirées par son profil énigmatique de bad boy, possiblement meurtrier.
Ouais.
Ouais, c'est toujours un peu creepy, ça. À la mi-avril, il fait la rencontre d'une femme de 10 ans son aînée, Séverine, avec qui il commence à s'afficher publiquement. Avant la disparition de Delphine, Séverine connaissait Cédric par l'intermédiaire de son fils qui allait parfois chez les Jubilards pour jouer au poker et boire quelques bières. Des soirées où Delphine était rarement présente, probablement parce qu'elle travaillait à ces horaires-là. Donc c'était un peu un ami là, de
Cédric.
Ouais, c'est ça. Il fumait du weed avec.
Ouais.
Et puis il s'est lié d'amitié avec sa mère qu'il fréquente maintenant. Là.
Ok. Ouais.
Quelques mois à peine après la disparition de Delphine. Et comment ils se sont rencontrés est aussi un peu spécial, le Seb.
Okay.
C'est le 15 avril 2021 qu'ils se sont rencontrés et y auraient noué des liens plus étroits lors d'une battue pour retrouver Delphine. Cette maman de deux enfants est allée vers lui en pensant avoir trouvé un pull taché de sang appartenant à l'infirmière. Et ensuite, autour de la mi-avril, ils ont dîné ensemble et leur histoire a commencé. Ils se sont attachés et puis ont décidé de former un couple. Il est immédiatement jugé par les proches de Delphine et par les gens sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Ce jugement-là le pousse encore plus à s'afficher avec elle. Donc, il voit ça un peu comme une provocation.
Oui, oui, oui.
Puis je sais que la presse française le jugeait beaucoup pour ça. On dirait que je comprends pourquoi les gens le jugent. Justement, sa femme est disparue avant. Mais dans son scénario à lui d'homme innocent, en fait, c'est sûrement justifié d'être avec une autre femme. Tu sais,
oui,
Delphine était, elle, avec un autre homme. Elle avait demandé le divorce.
Oui, oui, oui.
Donc lui, quelques mois après la disparition, il voit pas ça comme une offense malgré ça. Là,
oui,
tu sais.
Oui, oui.
Mais évidemment, pour les proches de la famille de Delphine, c'est audacieux, voire insultant.
Oui, 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 mais tu sais, c'est ça. C'est vrai qu'il était quand même en instance de divorce. C'est juste que je pense que c'est toute l'exposition publique, tu sais, qui doit...
Oui, oui, choquer.
Oui, c'est ça, c'est plus ça. Entre-temps, l'enquête se poursuit toujours. Certaines informations vont être acheminées aux policiers au fil du temps. Certaines qui sont plutôt troublantes et qui soutiennent une thèse d'un scénario violent. La même nuit, vers 23 heures, les cris d'une femme, supposés être ceux de Delphine, ont été entendus par deux témoins, une femme et sa fille, sorties fumer une cigarette dehors. Selon elle, des cris masculins et féminins ont été entendus en provenance de la maison, en plus d'aboiements de chiens. Le fils aîné de Delphine, Louis, a lui aussi été interrogé à trois reprises dans des témoignages qui se sont contredits. La première fois, il a indiqué que rien de spécial ne s'était passé la veille de la disparition. Mais un mois plus tard, il va indiquer qu'une violente dispute entre ses parents l'a sorti du lit le soir du 15 décembre. Il voit ses parents en train de s'empoigner entre le canapé et le sapin de Noël. Lors de cet entretien, Louis a détaillé l'altercation entre ses deux parents. Ils se poussaient avec les deux bras, une fois papa, une fois maman. Maman a dit « Arrête-toi ». Imaginez le drame vécu là, des yeux d'un enfant sérieux. Là.
Ah oui.
Quand tu assistes à ça, ça doit être l'enfer. Quelques semaines avant la disparition, la nounou du couple a aussi été témoin d'une violente dispute entre Cédric et Delphine,
où Cédric aurait menacé sa femme que si elle le quittait, elle devait s'attendre à des représailles.
Donc, il avait vraiment un comportement colérique, Cédric, puis ouais. Il n'était pas à sa première menace envers Delphine.
Effectivement. Suivant ces témoignages troublants, Cédric Jubilard est enfin arrêté le 18 juin 2021 pour meurtre aggravé. Arrêté devant ses amis, il garde le sourire pendant qu'il se fait passer les menottes. Selon le procureur de la République, il est établi qu'il s'agit d'une disparition qui n'est vraisemblablement pas volontaire. S'appuyant sur le profil de Delphine Jubilard, qui envisageait de divorcer de son mari pour s'installer avec un nouveau compagnon, qui aimait son travail et qui avait fait des projets d'avenir, la piste du suicide ou de la disparition volontaire a été écartée. L'amant de Delphine a un alibi solide. Il était avec sa femme dans la ville de Montauban le soir du drame. Cédric, lui, n'a toujours aucun alibi. Ainsi, il avait organisé une véritable surveillance de sa femme, allant sur son compte bancaire pour voir si elle avait fait des dépenses, étant très intrusif sur la manière dont sa femme organisait sa séparation, a rapporté le procureur. Cédric Jubilard a été décrit comme quelqu'un qui pouvait être brutal, grossier, agressif, y compris envers ses enfants. Il sera donc maintenu en détention provisoire, où il est toujours d'ailleurs. L'objectif des enquêteurs, obtenir des aveux. Séverine est aussi mise en garde à vue, mais relâchée peu après son interrogatoire. Peu avant son incarcération, Cédric va afficher une grande distance face à la disparition de Delphine. Il va même parfois envoyer des messages insultants aux amis de Delphine, il n'est pas barré, qui poursuivent toujours les recherches. Cédric semble aussi avoir un ton particulier où il prétend savoir ce qui est arrivé à sa femme. Il tentera à 4 reprises au cours des mois suivants à obtenir une libération en attente de son procès, demandes qui lui seront toujours refusées.
Puis son attitude n'aide pas à ça, tu sais, le fait qu'il envoie des... il insulte les amis de sa femme qui organisent encore des battues, des recherches, tout ça, son arrogance sur les réseaux sociaux, le fait qu'il fait toujours un petit peu allusion, un peu à la blague, que, ah, ben, Delphine, peut-être qu'il s'en serait débarrassé, ou peut-être qu'il sait où elle est, ou... Mais dans un contexte comme ça, c'est très maladroit de sa part.
Tu peux pas faire ça, C'est vraiment une drôle d'attitude, honnêtement.
Une information importante sera d'ailleurs contredite dans la foulée de cette arrestation. D'après le procureur de la République, lorsque les gendarmes arrivent à 4h50 du matin chez Cédric et Delphine, une laveuse de vêtements est en route, on se rappelle, contenant la couette avec laquelle dormait son épouse. À ce moment-là, l'état de la maison était négligé, là. Par contre, cette déclaration du procureur est contredite par une photo là, qui a été amenée au dossier. La photo a été prise l'après-midi du 16 décembre lors des fouilles qui avaient été organisées. Puis cette photo-là montre la couette sur le canapé où dormait Delphine Jubilard. Donc, elle n'aurait pas été lavée. Ce serait autre chose qui aurait été lavée à ce moment-là. Puis aussi, on fait une analyse de l'eau de la machine à laver qui ne révèle aucune trace de sang. Donc, pensez au peigne fin, ni l'eau de la machine, ni le tambour de la machine ça ne contient de traces d'un drap ensanglanté qui aurait été lavé côté-là. Donc, cette preuve n'aura plus aucune valeur dans l'enquête.
Okay.
Mais on s'entend que c'est quand même louche de faire une brassée à 4 heures du matin, quelle qu'elle soit. Là.
Oui, c'est un peu bizarre. Surtout à cause du contexte.
Oui, à cause du contexte.
Les policiers sont là. C'est pourquoi?
Suite à l'arrestation de Cédric, les enfants seront placés chez la sœur de Delphine. Le 22 juin 2021, le logement du couple est à nouveau perquisitionné en présence de Cédric. Une clé USB ainsi que des cartes mémoire de téléphone sont alors trouvées. Les enquêteurs ont un scénario bien précis en tête. Selon eux, le soir du 15 décembre, après avoir joué à Game of Thrones, Cédric surprend Delphine en train d'échanger des messages avec son amant, ça le met tout de suite en rogne et une dispute éclate entre le couple. Cédric tue Delphine dans la foulée de cette dispute. Il s'agit donc d'un féminicide selon eux et veulent tout faire pour le prouver. Toutefois, Cédric y tient son bout. Là. Il maintient son innocence et ne va rien avouer. Après tout, il n'y a toujours pas de corps, toujours pas de scène de crime. Toutes les preuves contre lui sont circonstancielles seulement. De plus, un témoin a affirmé avoir vu Delphine marcher dans la rue avec les chiens en pleine nuit. C'est vrai, on se rappelle de ce témoin-là.
Oui, exact.
De plus, avec les enfants à la maison, ça laisse très peu de temps à Cédric pour commettre son meurtre, nettoyer la scène de crime et disposer du corps de Delphine en pleine pandémie lorsqu'il y a un couvre-feu sans alerter les autres villageois. Bref, aussi, évidemment, s'il avait vraiment commis le crime, aurait-il appelé les gendarmes aussitôt à 4h15 du matin? Pourquoi ne pas passer une nuit normale et les appeler le lendemain? Je sais pas. Là.
Oui,
il y a plein de questions que tu te dis, voyons, si c'est lui qui a fait ça, c'est particulier quand même, là, tous ces autres facteurs-là là, qui sont à prendre en compte. Pendant son incarcération, Cédric est plutôt calme. Il fait sa routine de prisonnier et appelle sa compagne Séverine à tous les jours. Il clame toujours son innocence. Les enquêteurs vont utiliser certaines tactiques pour que Cédric baisse sa garde et le faire parler. Lorsqu'ils font des interviews avec lui, ils lui disent toujours que l'enquête piétine, qu'ils n'ont pas de piste véritable, qu'ils n'ont pas de nouveaux suspects, tout ça. Ainsi, Cédric risque d'être moins prudent et de faire des erreurs. Puis il y a aussi un détail aussi que je t'ai mentionné, mais il va être d'une certaine façon pas utile plus tard, là, Seb, mais c'est que les parents de Cédric ont aussi été arrêtés le même jour que lui. Parce qu'apparemment que c'est... je crois que c'est la mère de Cédric qui aurait posé une puce ou qui aurait organisé quelque chose pour qu'il puisse suivre la voiture ou quelque chose comme ça. Là. Elle aurait participé donc un peu à, comment dire, à l'offensive d'espionnage de Cédric.
De son propre fils. Donc.
C'est ça, de son propre fils. Mais par la suite, elle va être retirée de tout ça.
OK. Ouais, parce qu'elle devait avoir des soupçons, tu sais. Ouais, je peux comprendre.
Ah non, excuse-moi, elle espionnait Delphine, en fait.
Ah, OK. Elle participait à espionner Delphine.
Oui, c'est ça, mais elle ne savait pas la raison derrière, en fait.
Oui.
Donc, les policiers l'ont interrogée, mais ça n'a rien donné. Il n'y a aucune charge qui a été retenue contre les parents de Cédric. Là.
Mais quand même, je trouve ça bizarre, la belle-mère, ex-belle-mère, complice d'espionner... je trouve ça un peu... mais il a dû y mettre dans la tête qu'elle voyait quelqu'un puis pour les enfants.
Oui,
j'ai l'impression. Là, bref. Un événement complètement inattendu survient pendant que Cédric est incarcéré à l'automne 2021. Il fait la rencontre d'un certain Marco, un co-détenu et voisin de cellule. Marco est un malfrat originaire de la Corse qui a été récupéré par Interpol au Portugal après avoir été condamné à 1 an de prison pour des menaces de mort. Marco et Cédric ont en commun le fait que tous les deux dorment très peu et sont éveillés à des heures inhabituelles, ce qui fait en sorte qu'ils se lient d'amitié et ont de longues conversations, verbales, mais aussi écrites. Il semblerait que Cédric ait fait plusieurs confessions à Marco pendant les conversations qu'ils ont eues ensemble. Marco a contacté l'administration pénitentiaire en affirmant avoir des révélations à faire sur l'affaire Jubilar et il souhaite négocier avec eux. C'est un opportuniste. Selon lui, écoutez bien ça, Jubilar lui aurait confié avoir assassiné Delphine le soir du 15 décembre. Et je le cite. Il aurait d'abord vu un message de l'amant de sa femme avec qui elle textait. Il a pris son téléphone des mains et a vu les messages. C'est ça qui l'a fait vriller. Il m'a expliqué avoir suivi sa femme en la géolocalisant, avoir tenté de pirater son téléphone sans succès. Il savait ce qui allait se passer. Il attendait le moment propice pour s'en débarrasser. Cédric lui aurait confié plusieurs lettres destinées à Séverine afin qu'il lui remette une fois que Marco serait en liberté. Ces lettres étaient écrites sous forme d'un code qui a été décrypté par les policiers. Cédric lui aurait aussi donné des numéros de téléphone de contact à rejoindre. En plus de ça, selon le témoignage de Marco, en faisant référence à une autre histoire de meurtre qu'il aurait vue à l'émission « Faites entrer l'accusé », Cédric lui aurait mentionné « Dans mon cas, ces abrutis n'ont même pas trouvé le couteau ». Et en se comparant aux meurtriers dans l'histoire et en faisant référence aux enquêteurs, Cédric m'a dit qu'il avait enterré l'autre en parlant de sa femme, mais qu'elle n'était pas enterrée profond. Cela l'a inquiété que son corps puisse être découvert à l'approche de l'hiver et souhaitait que quelqu'un déplace le corps. Il m'a précisé qu'il s'agit d'un endroit qui avait brûlé sans plus de précision. Il m'a expliqué qu'il s'agissait d'une forêt qui avait déjà brûlé. Cédric aurait utilisé une voiture blanche pour transporter le corps. Il m'a dit qu'il n'allait pas être assez stupide pour utiliser sa propre voiture, a même précisé Marco. Mais on se rappelle que Delphine avait une petite voiture blanche qui a été déplacée pendant la nuit.
Et ça, c'est très étrange, ce témoignage-là à Marco.
Mais hein?
Tu dis, est-ce que tout ça est vrai ou il y a des choses inventées? Parce qu'effectivement, Delphine avait une voiture blanche aussi. C'est quand même assez louche tout ça. Puis, est-ce que vraiment Cédric se serait vanté en disant justement les abrutis n'ont pas trouvé le couteau à son voisin de prison? Et on dirait qu'il y a des éléments de vérité là-dedans, mais que c'est pas clair. Là. Donc, c'est louche, mais on va voir, les enquêteurs vont quand même vouloir vérifier tout ça. Là.
Oui, ben oui, absolument. Le co-détenu de Cédric a ajouté que sa nouvelle compagne, Séverine, est au courant et a proposé aux gendarmes de les aider afin de faire avancer l'enquête. Les policiers acceptent de l'entendre et d'investiguer cette piste, puisqu'à ce moment-ci, rien n'est concluant. Bien que tous les soupçons pèsent sur Cédric, aucune preuve réelle n'a été découverte, aucun corps, aucune arme du crime et aucune scène de crime, comme on vous disait. Marco a donc été remis en liberté pour aller voir Séverine en infiltration. Ce dernier y est allé à 3 reprises en lui faisant croire que Cédric lui avait demandé de déplacer le corps de Delphine. C'est quand même pas pire comme stratégie, je trouve, de l'utiliser.
Oui, d'utiliser l'ancien détenu.
Oui.
Ouais.
Cette dernière lui aurait donné des coordonnées GPS pour se rendre sur le lieu où se trouverait le cadavre de Delphine. Elle aurait d'ailleurs confié que Cédric avait protégé ses chaussures par des sacs plastiques quand il s'était rendu à cet endroit afin de ne pas ramener de terre, mais aussi de ne pas laisser d'empreinte de pas derrière lui. Ce sont des grosses affirmations, là, quand même, tout ça, Émile. Mais est-ce que ça peut être vrai? Est-ce que c'est vrai, tu penses?
Oui, bien, tu sais, c'est sûr qu'il y a des... Il y a des choses qui sont pas de la fabulation, tu sais. Marco, il s'est fait donner vraiment des lettres, des numéros de téléphone,
ça.
Donc, il y a vraiment une grande partie de ce que Cédric lui dit qui est vrai. Ouais. Mais en même temps, justement, l'histoire de déplacer le corps, qu'il l'aurait enterré à un endroit où une ferme a brûlé, des choses comme ça. Est-ce que c'est une invention de Marco ou est-ce que Cédric lui aurait dit ça peut-être même pour le tester, en
ouais,
fait.
Oui, exact. Oui, j'y avais pensé à ça, pour voir s'il était loyal. Oui, c'est une bonne question. Je le sais pas. C'est tellement bizarre.
Ou est-ce que Cédric lui aurait demandé de faire ça? Parce qu'en faisant ça, Cédric contribue un peu à faire libérer Marco plus rapidement. Est-ce qu'il y a quelque chose en retour que Cédric gagne, tu sais? En même temps, on dirait que ça l'incrimine encore plus.
Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que... Je sais pas,
est-ce qu'il y a quelque chose qu'on sait pas, bref. Mais c'est vraiment bizarre, ces confessions-là. À la mi-décembre 2021, Séverine est mise en garde à vue pour recel de cadavres.
Mon Dieu.
En interrogatoire, elle confirme le fait que Cédric lui ait parlé de cette fameuse ferme qui a brûlé, là, située dans le village de Cagnac-les-Mines, mais elle nie s'y être rendue avec le co-détenu pour déplacer le cadavre. Elle a dit « Je n'ai jamais amené le co-détenu sur les lieux, Marco. Je ne suis jamais allé avec Cédric sur les lieux non plus. Cédric ne m'a jamais dit sérieusement qu'il avait tué sa femme, à part en rigolant quand il m'a parlé de la ferme en question. » Mais bon, c'est quand même un peu... je sais pas si on dit ça pour rigoler.
Ouais, c'est ça.
Pour elle, il s'agit d'une mauvaise blague. Elle a dit « Quand j'ai vu le détenu, je lui ai dit « Va voir, mais ça m'étonnerait que tu trouves Delphine. Je pense que Cédric te prend pour un con. » Voilà ce que je lui ai dit. Cette histoire de ferme, c'est de l'humour noir et ça ne m'a pas fait rigoler. Donc, quand même, c'est... Même si Cédric faisait des petites blagues comme ça, il y a peut-être... en fait, si tout cela est faux, il met encore plus Marco dans le trouble.
Ah oui, t'as raison.
Puis Marco, c'est pas quelqu'un avec qui tu veux avoir des problèmes, en fait. Parce que non seulement il y a eu des graves accusations contre lui, mais c'est quelqu'un qui est un... Comment dire? Un criminel de carrière. Là.
Ouais,
Cédric, c'est un peintre qui fait des rénaux. Là. il est pas au même stade criminel que Marco. Là. Il doit lui en vouloir quand même de l'avoir mis dans des beaux draps comme ça.
Effectivement.
Séverine sera remise en liberté après 35 heures d'interrogatoire. Là, quand même, là, ils l'ont cuisinée sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. Cédric, de son côté, a nié avoir fait des confessions à Marco en l'insultant au passage. Des fouilles ont été organisées plus tard sur le terrain de cette fameuse ferme située à quelques kilomètres du domicile des Jubilards et malheureusement, aucun cadavre n'a été découvert. En décembre 2021, les enquêteurs explorent une nouvelle piste. Cathy M., vous savez, c'est l'épouse de l'amant de Delphine, l'homme de Montauban.
Oui, oui.
Elle, elle a intercepté un SMS de son mari envoyé à Delphine la veille de sa disparition. Puis là, on se rappelle qu'elle avait fait un pacte avec Delphine en lui disant « Tu ne vas pas contacter mon mari » et tout ça.
Oui, oui.
Et là, elle s'est rendue compte que Delphine, dans le fond, avait triché au pacte. Elle avait continué à y écrire à son mari. Donc, d'une certaine façon, Delphine a brisé le pacte. Donc, c'est intéressant de savoir, des yeux des enquêteurs, qu'est-ce qui se passe avec cette fameuse Cathy M. Ben, ils ont su que la veille de la disparition de Delphine, le 15 décembre, cette fameuse Cathy passe 145 appels à un numéro inconnu.
Wow!
Et on apprend aussi que Delphine, en fait, c'est une femme qui est déjà entrée dans la maison de Cathy et même en sa présence. Et ça, je ne savais pas. C'est,
okay,
ça serait déjà rencontré, Delphine et la femme de son amant. En fait, Cathy M. aurait connu Delphine bien avant cette histoire de relation conjugale. Même selon l'avocat de Cédric, elle serait allée prendre un cours de piano chez Cathy.
Okay.
Donc, c'est quand même bizarre un peu, là, mais interrogé à trois reprises, bref, le couple de Montauban, Cathy et son mari, qui est l'amant de Delphine, ont été écartés des soupçons. Mais c'est bizarre. Hein, là.
Ouais.
Mais en même temps, c'est des petites communautés. J'imagine, si tu veux suivre des cours de piano dans cette région-là, il n'y a peut-être pas... mais bon, c'est quand même un peu bizarre, tous ces chassés-croisés-là. Là.
Oui, exact. Mais le nombre d'appels...
oui, c'est quand même
145
pas rien.
Appels,
c'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Donc, encore une fois, Seb, l'enquête est de retour à la case départ. Impossible de coincer Cédric, qui demeure quand même le principal suspect. Mais là, on arrive, on est un an plus tard même. Là. Ça fait longtemps quand même que c'est arrivé tout ça. Là.
En janvier 2022, là, donc un an après, les autorités en charge de l'affaire ont réussi à mettre la main sur les données GPS du téléphone de Cédric. En effet... tous les téléphones Android équipés de l'application Google Maps peuvent enregistrer les données GPS de l'utilisateur, sauf si celui-ci refuse de donner l'autorisation, ce qu'on fait à peu près jamais. Là. L'historique des traces GPS est accessible sur le téléphone Android ou via un navigateur. Il est relié au compte Google de l'utilisateur. En 2020, lors de ses premières auditions, alors sous la pression des enquêteurs, Cédric Jubilard avait bloqué son compte Google. Il a indiqué à ces derniers à plusieurs reprises une mauvaise réponse à sa question de sécurité pour récupérer un nouveau mot de passe. Les enquêteurs avaient une demande pour tenter de récupérer les données à Google au préalable, mais sans succès. Mais ça, en passant, moi j'aime bien quand vous êtes abonné à ce truc-là de Google, à chaque mois, il vous envoie votre timeline du mois. Puis moi, j'aime vraiment ça, le nombre de kilomètres parcourus à pied, en vélo,
ben
en voiture, les nouveaux lieux découverts. Je trouve que même si c'est un peu, intrusif, oui, j'aime la fonctionnalité que ça donne. Bref, je referme cette parenthèse, je retourne à l'histoire. Depuis, les juges d'instruction ont fait une demande d'entraide internationale auprès de la justice aux États-Unis. Cette dernière a répondu favorablement et a ordonné à Google de transmettre les traces GPS de août à décembre 2020, des données qui sont précieuses aux yeux des enquêteurs. Les lieux de déplacement fréquents de Cédric et les données GPS de son téléphone sont mixés pour guider les fouilles. Très bonne idée. Une zone proche du cimetière Saint-Dalmaz à Cagnac-les-Mines serait particulièrement intéressante pour les enquêteurs en raison de son occurrence dans les données. Entre-temps, les enquêteurs mettent la main sur d'autres détails entourant les activations du téléphone de Delphine, un Huawei P30 Pro. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, sur le créneau horaire où Delphine aurait pu avoir été victime d'une agression fatale, son téléphone réagit à 6 reprises, ce qui constitue une autre véritable énigme au cœur de cet enfer, En exploitant les manipulations de ce téléphone via Google sur la ligne de la victime, les experts identifient 6 horaires correspondant soit à une utilisation volontaire, soit à une action propre à l'appareil. Ces horaires sont répartis comme tels entre minuit 7 et 6h52 le matin. Activation de l'application WhatsApp à minuit 9, la caméra WhatsApp activée à 1h33. Il y a des multiples déclenchements de l'interface de l'appareil aussi, Ça, c'est quand on clique sur, à quelque part. Donc, à minuit 7, 1h03 et à 6h52. Pour savoir si une manipulation humaine ou de simples notifications internes à ce téléphone sont à l'origine de ces curieuses activations, les juges confient donc à un laboratoire spécialisé qui est basé à Nancy la mission d'éclaircir le mystère.
C'est Nancy, excuse-moi.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Pour savoir si une manipulation humaine ou de simples notifications internes à ce téléphone sont à l'origine de ces curieuses activations, les juges confient donc à un laboratoire spécialisé basé à Nancy la mission d'éclaircir le mystère. L'horaire de 6h52 est d'autant plus intéressant qu'à cette heure précise, Cédric, le principal suspect, se trouve en présence des trois gendarmes à son domicile de Cagnac-les-Mines, plus de 2 heures après avoir signalé la disparition de la femme. Est-ce que Delphine aurait elle-même activé ce téléphone?
Oui, c'est louche, c'est ça, ce qui est genre bizarre. De ping-là à 6h52.
Pour étudier le comportement du téléphone de Delphine, les experts font l'acquisition du même modèle, achetant une carte SIM et créant un compte Google. Objectif, réaliser une mise en situation pour comprendre d'où peuvent venir ces déclenchements successifs et s'il implique un déverrouillage du téléphone. Hélas, par manque de temps en raison des procédures judiciaires, les recherches seront abandonnées.
Ouais, c'est triste ça qu'ils n'aient pas poursuivi ces recherches-là.
Non, effectivement, puis c'est une bonne idée de faire un twin, en fait un jumeau numérique,
ben souvent oui.
D'avoir un autre téléphone pour pouvoir tester. Entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février 2022, les gendarmes ont ratissé la ferme près de Drignac et les alentours du cimetière Saint-Dalmaz pour trouver Delphine et son téléphone portable hein, qui est toujours pas retrouvé. Les recherches ont par conséquent été abandonnées. Le 11 mars 2022, des battues sont sur le point de démarrer dans la même zone, mais cette fois dans les airs. Des drones vont être déployés au-dessus de Cagnac-les-Mines pour permettre aux forces mobilisées d'avoir une vue plus globale du secteur qu'ils ont déjà exploré à pied. Au moment d'enregistrer l'épisode, nous ne connaissons pas les résultats de ces recherches. Mais si Cédric n'avait pas utilisé sa propre voiture, mais plutôt une autre voiture blanche similaire à celle de Delphine? C'est une bonne question. Là. Il se trouve qu'un de ses amis, Jérôme, a lui aussi une Peugeot 306 blanche. Jérôme habitait non loin de chez Cédric et ce dernier se rendait souvent chez lui pour acheter des stupéfiants. Il lui arrivait de passer à toute heure du jour ou de la nuit, comme dans un moulin, disait-il. Delphine cachait souvent les clés de la voiture à Cédric, car celui-ci avait l'habitude de conduire sans permis, pétard à la bouche, avec les enfants derrière. Mon Dieu. Il lui arrivait donc d'emprunter la voiture de Jérôme, parfois à son insu. Cette Peugeot est donc fouillée et des traces de sang ont été retrouvées.
Hello les distordus, ici Émile. Sachez qu'il y a eu des développements entre l'enregistrement et le montage de cet épisode-ci. On a appris entre-temps que les taches de sang retrouvées dans la voiture d'un voisin des Jubilards en fait étaient non existantes, c'est-à-dire qu'on aurait retrouvé des fluides qui ne seraient pas du sang et qui n'auraient pas été identifiés jusqu'à présent.
Ce Jérôme semble jusqu'à présent avoir été blanchi et affirme qu'il est fort probable que Cédric lui ait emprunté sa voiture en pleine nuit sans qu'il ne le sache. C'est donc là où on en est, mon cher Émile. Entre-temps, les enfants de Delphine, eux, ils pleurent la disparition de leur mère tous les jours, là, sans oublier que leur père est en prison. Donc, pauvres eux, là, ils se retrouvent orphelins et ils doivent tellement pas comprendre ce qui se passe. Là. C'est vraiment un véritable drame là, pour cette petite famille-là. Là. Je sais pas quel genre d'avenir ils vont avoir devant eux, là, parce que si son père est coupable, eux, ils vont se retrouver soit dans la famille ou être adoptés ou quoi que ce soit, mais risque ça va être des grandes blessures qui vont porter toute leur vie. C'est vraiment
oui,
triste.
Tout à fait. C'est vraiment pour eux, moi, que je suis hyper triste. En plus, il y avait plein d'avenir hein, pour eux. On sait que Delphine, en fait, voulait quitter Cédric avec le divorce, mais voulait aussi amener les enfants. C'est sûr que peut-être que ça fait une raison de plus pour Cédric de vouloir l'éliminer, mais elle avait l'intention de déménager avec l'homme en question, d'amener les enfants, puis de repartir à neuf sur des meilleures bases, en fait. Donc, c'est triste de voir qu'à un moment où c'était très difficile, où il y avait des difficultés familiales, des difficultés dans le couple, ben il y avait un peu une perception d'un avenir meilleur, puis que ça, en fait, tout ça a été brisé, là. C'est, en fait, Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi, Seb. Toi, tu t'intéressais quand même un peu à la piste de la disparition volontaire parce que c'est sûr que tous les regards se pointent vers Cédric, donc c'est intéressant de regarder ailleurs parfois.
Oui, j'essaie de comprendre parce que le manque de cadavres me à cause de la timeline, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un trou dans la timeline, mais c'est que pour moi, on dirait que c'est inconcevable qu'il ait abandonné les enfants seul dans la maison la nuit pendant qu'il a fait ça. Mm-hmm. Parce que s'il a déplacé le corps et tout ça, veut pas, il a laissé les enfants. On dirait que pour moi, ça fait pas de sens. Mais je pense que dans l'état qu'il était, il a pas dû s'embadrer.
Parce que je suis surpris, c'est vrai, à ce propos-là. Tu sais, le petit Louis, quand il a été interrogé, en fait, il a dit qu'il y avait une dispute qui avait éclaté entre ses parents, qui se sont empoignés entre le sapin de Noël et tout ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Tu sais, il a jamais dit j'ai entendu ma mère hurler, il y a eu du sang partout. Il a jamais dit papa est parti pendant plusieurs heures avec la voiture. C'est flou aussi cette partie-là en fait. Comment les enfants ont vécu cette nuit-là?
Oui, puis même son premier témoignage quand il a dit qu'il avait rien eu de spécial, c'est clair qu'il a été briefé par son père avant. Ouais. Des fois, ils vont avoir tendance, ils savent pas trop, là, qu'ils vont être loyaux envers leurs parents. Là. Ils vont dire ce qu'ils vont leur dire, ce qu'on va leur dire de dire. Je ne sais pas jusqu'à quel point que plus les manipuler là-dessus, peut-être garder l'info secrète. Mais tu sais, la disparition volontaire, je suis pas tant convaincu non plus. J'ai l'impression que c'est lui. Puis justement, avec tout tous ses plans que Delphine faisait, c'est clair que ça va moins vers ça, mais je me questionnais quand même, tu sais, justement, tu sais, le cadavre, il n'y a rien, il n'y a pas de preuves, tu sais, je veux dire, le gars, en plus, c'est pas un criminel notoire, tu sais, comment il a pu autant si bien cacher tout ça,
c'est clair.
Il y a ça aussi, là, puis tu sais, ça, je le connais pas, là, mais de ce qu'on connaît de lui, ça n'a pas l'air d'être le pogo le plus dégelé de la boîte, là, du moins à ce moment-là, tu sais, s'il n'est pas tout là, tu sais, on dirait que je trouve qu'il a bien planifié ses trucs, tu sais, en tout cas, s'il se fait pas prendre, ou là, je pense que ça achève, là, mais quand même, tu sais, ça fait au-dessus d'un an. Donc c'est ça. La disparition volontaire, oui, mais j'ai l'impression quand même que c'est lui. Toi là-dedans, là, qu'est-ce qui t'a marqué?
Ben moi je crois fortement au féminicide là, c'est sûr que je veux bien m'en excuser mille fois si on se rend compte que c'est pas lui le coupable. Je sais que la présomption d'innocence et tout ça, mais pour l'instant moi je crois vraiment à l'hypothèse du féminicide. Les confessions à Marco, ça peut pas être toute une invention, parce qu'on sait qu'il y a du vrai là-dedans, donc pourquoi ce serait autant mélangé. On se rend compte que Cédric avait accès à deux voitures blanches pendant la nuit, donc qui auraient potentiellement servi à déplacer le corps. Le témoignage de son fils Louis aussi, qui tu sais, ne décrit pas, je me contredis un peu parce que je viens de dire qu'il ne décrivait pas le meurtre, mais il décrit au moins un événement troublant là, ce soir-là que lui, Cédric, n'a même pas décrit dans son propre témoignage. C'est-à-dire que son fils a dit qu'il y a eu une dispute entre papa et maman. Cédric, lui, n'a même pas dit qu'il y avait de dispute là, dans cette soirée-là.
Oui, c'est vrai.
Il dit que sa femme est partie promener les chiens. En plus de ça, il y a les demandes de libération qui sont toujours refusées. Donc, pour moi, ça me laisse aussi croire que les policiers ont sans doute des preuves que nous, on ne sait pas. Hein. Que ce soit des infos technologiques venant du cloud, que peut-être qu'ils ne nous ont pas divulguées, parce qu'on sait qu'ils veulent faire parler les gens, ils veulent faire parler Cédric. Le rapport d'ADN sur la voiture blanche. J'ai l'impression qu'en plus, ils attendent que justement, ils fassent une erreur à quelque part, une confession à Séverine. Là. Les deux doivent être très épiés en ce moment. Et puis, tu sais, si Delphine était partie de son plein gré en pleine nuit, il me semble qu'elle aurait trouvé une façon de dire au revoir à ses enfants, elle aurait au moins salué ou dit qu'elle les aimait, tu sais, quand c'est une disparition volontaire. Donc, moi, ça tombe vraiment plus du côté du féminicide côté. Puis aussi, moi, je suis curieux, il nous manque beaucoup d'infos sur les journées précédentes. T'sais. Est-ce que qui est allé chercher les enfants à la garderie ce jour-là, la veille? Quelle était l'ambiance à la maison lors des jours précédant la disparition? J'ai l'impression que ces journées-là pourraient nous en dire quand même un peu sur comment les choses allaient s'orchestrer par la suite. Donc, moi, je penche un peu plus vers cette théorie-là, Seb. J'ai hâte de voir ce que les distordus en pensent. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des infos qu'on n'a pas mentionnées, s'il y a des choses que vous savez. Chers distordus, vous pouvez le faire. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est assez simple de le faire. On est partout. On est sur Facebook au Distorsion Podcast. Même chose sur Instagram. On est sur Twitter au Distorsion Pod, sur YouTube aussi. On a un groupe de discussion fantastique sur Facebook aussi, où on peut débattre d'histoires comme ça. Au niveau des sources aussi, sur cette histoire-là, il y a eu beaucoup de choses décrites. Comme je vous dis, on surveille plusieurs articles dans les grands journaux français, en ont tous traité. Oui. Au niveau des podcasts, shout-out à notre chummy Lionel Camille qui a fait un épisode aussi sur cette histoire-là, plus dans les débuts. Donc, évidemment, on s'en est inspiré. Un shout-out à l'excellent podcast aussi Homicide, qui a traité de l'histoire. Il y en a plusieurs autres qui l'ont fait aussi, RTL et autres. Donc, c'est une histoire qui a énormément de contenu qui a été écrit et on va continuer de la suivre, nous, à Distorsion, bien évidemment. Et aussi, on vous invite à nos membres Patreon et ceux qui ne sont pas membres à vous prendre un forfait parce que pour l'after show d'aujourd'hui, on va traiter un peu de l'histoire de Alexia Daval qui a beaucoup de similarités. Il y a certains cas qui ont beaucoup de similarités avec ça, même le cas de Chris Watts, je trouve. Même Dupont de Ligonnès à certains égards. Donc, on va comparer un peu les deux histoires. On va traiter un peu aussi du fait de jouer la comédie aussi, là, comme ça, là, de mentir constamment. Où est-ce que ça peut nous amener? Mais bref, Seb, je voulais te remercier aussi pour cette super saison 7. On en profite pour remercier André Beaupré, aussi notre monteur, Arby qui s'est partagé la musique avec moi tout au long de cette saison-ci. On remercie le local, l'espace collaboratif, un espace de coworking où on enregistre les épisodes de Distorsion. On remercie notre agence Made In, tous nos précieux commanditaires qui nous ont aidés aussi cette saison-ci. Et sans oublier, bien sûr, nos membres Patreon qui nous soutiennent sans relâche. Et je te laisse y aller, mon cher Seb.
Oh oui, beaucoup d'amour à Marion G, Kate E, Alexis A, le ou la mystérieux Lou et Mario P.
Aussi un gros câlin à Opal, à Gab B, à Marc-André B, à Marc F et à Clo-Clo.
Je poursuis avec Gabriel B, Alexandre C, Audrey, Marco M et Mathieu G. Beaucoup d'amour.
Un gros câlin à Mansi B, à Mélancolitron Digitalizer. Un gros shout-out à toi. À Katia D, à Annick B, à William C.
Et je poursuis avec de l'amour pour Troquette Attitude, Karina C, Allison T, Audrey Z et Eric M.
On ne pourrait pas exister sans l'existence de Roxane P, de Marc-Antoine B, de Ariane C, de Marc-André P et de Vicky GF.
Et je poursuis avec Eliane RD, Jade M, Pigeon Craintif, Sabrina G et Sarah Maude DM.
Un bon high five à Gab L, à François DG, Nicolas D, Nancy LG et à Frankie C.
Et un shout out à Daphné V, Guillaume DP, Gabriel L, Marie-Jo C et Rosie A.
Et pour terminer, un tsunami d'amour à Jessica T.P., Nathalie D., Cédric T., Justine P. et Kimberly M. Shout-out à vous.
Oui, vous étiez 50 aujourd'hui.
Et pour terminer, mon cher Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir?
Sachez qu'on risque fort bien de passer les 100 épisodes puisque nous reviendrons officiellement en automne pour une 8e saison.
Oh boy, c'est parti.
Oui, madame.